rendez-vous les 3e mercredi du mois sur les ondes de Radio FM+, retrouvez Sous le pavé, le Récif, une émission interassociative co-construite avec les membres du Récif et du pavé.
Bonjour à tous et à toutes, merci de nous retrouver aujourd'hui pour cette 4e émission de cette nouvelle saison de l'émission Sous le pavé, le Récif. On est très heureuse de pouvoir continuer ce projet tous les mois jusqu'en juin et de réunir une fois l'association Pavé qui s'évertue à animer le parc Clémenceau et le Récif, notre association d'éducation populaire qui entreprend des actions prenant la forme d'ateliers, de soirées thématiques, d'événementiels festifs et de sensibilisation. Cette émission Sous le pavé, le Récif est une production locale faite par et pour les habitants du quartier, qui a pour but de mettre en lumière les initiatives associatives, collectives et citoyennes d'entreprise. Pour ça, nous échangeons sur des sujets de société en faisant un pas de côté. Et nous porterons notre regard sur ce qui est fait localement, près de chez nous. Et nous partagerons les visions et les expériences de chacun grâce à ce tissu de liens créés et que l'on souhaite voire perdurer. À chaque émission, nous faisons appel à des invités différentes. Et aujourd'hui, nous sommes en compagnie de nouvelles têtes. Mais je vais laisser chacune d'entre elles se présenter. Bonjour.
Bonjour, moi c'est Yann de l'association Pavé.
Daniel de l'association Pavé.
Moi c'est Astrid et aujourd'hui je suis ici pour Human Santé, notre centre de santé communautaire local.
Et moi c'est Anita, toujours pour le Récif.
Merci, et moi c'est Tiffaine, du coup volontaire au Récif. Aujourd'hui nous allons parler de l'art et la culture qui est présent du coup dans notre société. Du coup la petite définition de la culture c'est plutôt l'ensemble de connaissances, de savoir-faire et des traditions. Mais cette définition elle est plutôt, elle a débuté au 19e siècle, donc c'est un peu la culture générale. Maintenant aujourd'hui au Récif et dans d'autres associations de plus en plus en France, nous mettons en avant un courant nommé éducation populaire. C'est une transformation sociale en dehors des institutions traditionnelles d'enseignement. Il place les personnes au cœur de leur apprentissage en partant des situations, des expériences, des questionnements, des connaissances de chacun. Pardon, je vais un petit peu trop vite peut-être pour vous. Du coup, l'éducation populaire, du coup, c'est plus pour mettre en personne au cœur de leur apprentissage, du coup, par rapport aux situations, aux expériences, aux questionnements de chacun. Et c'est plutôt aussi un cadre de réflexion collective. Et on essaye de ne pas positionner tout ce qui est hiérarchiquement, pardon. Aucune position hiérarchique. Et du coup, ça a un peu commencé grâce à la grosse association du CMEA. Est-ce que, Anita, tu veux nous en dire plus ?
Oui, alors, pour commencer, aujourd'hui, on voulait parler de culture, un peu dans un sens large. On se prétend pas sociologue de la culture ni politicien de la culture, mais c'est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur parce que l'éducation populaire, comme le disait Tiffaine, défend le fait de l'éducation pour tous et par tous, et donc une manière plutôt horizontale et en tout cas de pouvoir rendre accessibles des pratiques et des lieux culturels. Et donc on voulait un peu se demander aujourd'hui justement, est-ce que c'est si facile de rendre accessibles des lieux culturels ? Est-ce qu'il faut les rendre accessibles, ces lieux culturels ? Et donc pour ça, je voulais qu'on s'attarde un petit peu sur la sociologie de la culture, parce que la sociologie de la culture, elle permet quelque chose d'important à mes yeux, qui est de sortir la culture d'une vision individualiste où il y aurait une personne qui est cultivée et une autre qui n'est pas cultivée, une personne qui a telle ou telle culture. La socio, elle permet de dire que la culture, c'est un fait sociétal, c'est une activité. Il y a des individus qui pratiquent cette activité et qui interagissent ensemble, et il y a des dynamiques et des développements différents depuis des siècles autour de cette activité qui est la culture. Et donc, il y a des méthodes d'analyse pour étudier cette culture. Notamment en France, on va beaucoup s'intéresser à la sociologie des publics. Et donc, la sociologie des publics, elle va aller voir comment les gens pratiquent la culture. Est-ce qu'on peut identifier des tendances, des grandes tendances dans nos pratiques culturelles ? Est-ce que les individus, selon leur classe sociale, ont un rapport à l'art différent ? Je vous spoil un petit peu, mais oui. Et donc, bon, la sociologie, elle permet aussi de sortir d'une grande idée, comme quoi si on donne un accès à la culture aux gens, si on leur donne les moyens d'aller au théâtre, ils vont aller au théâtre. En fait, la sociologie des publics, elle montre que ça va pas de soi, que dans les politiques culturelles qu'on a construites en France, on a institutionnalisé la culture à partir des années 50 en France, notamment sous l'impulsion du ministre Malraux en 52. Et c'était un champ très important de pouvoir effectivement rendre accessible plein d'équipements culturels, etc. Mais les faits montrent que en fait il y a toujours un plafond, une limite à un moment donné à ce que les gens puissent avoir accès à ces équipements. Et ça, on peut l'étudier en sociaux par rapport à plusieurs choses. D'une part, parce que dans les années 60, au moment où Malraux commence ses grandes politiques culturelles, il y a toujours une très forte vision de la culture entre la culture qu'on dit légitime et celle qui est digne ou celle qui est indigne. Celle qui est digne et légitime, elle appartient souvent aux familles bourgeoises qu'on va dire cultivées. Et en fait... le système scolaire reproduit aussi le fait de légitimer cette culture bourgeoise dominante. Et donc, il va sortir une vision que presque la culture dominante, eh ben, elle est acquise pour certains enfants, elle est acquise pour certaines personnes. Il y a cette vision comme quoi soit tu l'as presque de naissance, soit tu dois travailler dur et essayer de l'avoir et la mériter. Et cette vision très méritocratique de la culture, elle plonge vraiment, elle crée des inégalités entre les enfants qu'on va dire qui vont avoir des facilités à l'école, qui vont avoir des facilités à comprendre le monde selon le système scolaire, puisque c'est cette culture qu'on leur a qu'on leur a donnée depuis leur naissance, alors que de l'autre côté, en tant que personne qui a pas forcément cette même culture, tu dois redoubler d'efforts pour avoir accès à ses savoirs et à ses connaissances.
Mais oui, en plus j'ai envie de rebondir sur ce que tu dis, Anita. Il y a eu plusieurs études qui ont montré que les étudiants engagés dans l'art obtiennent de meilleurs résultats scolaires. Ils ont plus d'empathie, de coopération, ils font des activités créatives et du coup ça stimule l'imagination, les pensées critiques et bien sûr ça améliore le développement cognitif et social, bien sûr. est-ce que du coup, Eliane, tu veux nous en parler plus parce que tu as été aussi institutrice dans tes années
passées.
Non, c'était pas ça.
Et donc, Anita, tu as parlé de la culture légitime et moi, j'ai envie de dire l'autre culture pour pas la dénigrer, justement. Et à l'école, la culture est super importante puisque tous les enfants, presque tous les enfants vont à l'école. Et du coup, l'école a un rôle important en matière d'accès à la culture. Et en fait, à l'école, on cultive tous les axes de la culture, depuis la culture littéraire jusqu'à la culture scientifique, en passant par la musique, le théâtre, le cinéma. Et c'est super important parce qu'il y a des enfants qui ne vont aller au théâtre ou même à l'opéra ou au cinéma, simplement parce que l'école va les y amener à un moment donné. Donc ça, c'est peut-être pour la culture légitime, on va dire. Mais à l'école, et notamment à l'école maternelle, mais je pense aussi à l'école primaire, les enfants, ils pratiquent par le faire toutes les formes de culture. Donc c'est super important. Et il y a des dispositifs. Alors il y a des dispositifs en fonction des villes, on va dire. Enfin, il y a des villes qui permettent plus ou moins l'accès à la culture, aux enfants, et puis il y a des dispositifs étatiques aussi. Et donc c'est important de mixer tout ça, et c'est important qu'au niveau de l'État, il n'y ait pas simplement un rapport aux savoirs fondamentaux, mais que la culture garde une place importante.
Je rajouterai dans l'école, ce qui est très important également, c'est la culture sportive.
Oui, c'est vrai.
Ah. Tous les enfants ici à Montpellier vont en primaire à la piscine. C'est presque obligatoire. Dans l'intérêt d'éviter la noyade une fois qu'ils sont en train de patauger à la mer. Bon, alors quant au collège, puisque moi j'étais enseignante en collège, j'ai eu deux expériences. La première, c'était au Havre, dans mon collège, une année. Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête. Me voilà en train d'entreprendre une chorégraphie avec mes élèves sur un piano sous la mer. Voilà. Bon. Et elles étaient assez contentes. Et ma deuxième expérience est ici à Montpellier, dans un collège Lascaz, pour pas le nommer, qui est surtout avec des élèves d'un niveau pas très élevé au point de vue culturel. Quoique dans leur quartier, il y a quand même beaucoup d'activités qui essaient de les tirer vers le haut. On avait mené les mercredis après-midi une action scientifique sur la collecte des déchets au moment où dans la ville de Montpellier, c'était entrepris. J'avais trois filles, ça n'avait pas motivé beaucoup de personnes apparemment, hein. Et on a appris comment trier le plastique, les papiers, etc. On a même eu l'occasion après, pour le thème sur l'eau, d'avoir la voiture de l'établissement pour aller à la source du Lez, voir comment fonctionnait le traitement de l'eau. Voilà. Et l'année suivante, nous avons étudié le système solaire. Et nous avons terminé l'année en faisant une exposition de nos planètes, suspendues, en respectant les tailles, les couleurs, etc., dans le hall. Les planètes étaient suspendues par des fils dans le hall de l'établissement. Voilà mes expériences en établissement scolaire.
Mais c'est super. Et en plus, du coup, la culture, c'est aussi... l'art et la culture, pardon, c'est aussi un loisir dans tout ce qui est MJC ou des festivals, dans les festivals de rue. Est-ce que Anita, tu voudrais parler sur ce sujet ?
Oui, et alors, donc je fais un petit retour en arrière. J'ai commencé mon propos en parlant des années 60. Il se trouve que dans les années 70-80, il se passe aussi une généralisation des pratiques culturelles, un accès aux loisirs qui justement donne un meilleur accès aux festivals, à de l'animation, à du loisir le mercredi après-midi. Tout ça, ça date aussi et c'est lié à des politiques culturelles pour généraliser le fait que toute personne puisse avoir accès à des équipements culturels sur son temps de loisir, que ce soit les enfants ou les adultes. On parle aussi des bibliothèques, des musées, des expositions qui développent des passes culture, des passes pour donner en tout cas un meilleur accès à la culture. Et moi, donc, mon exemple que j'aime bien et qui, à mon sens, donne un véritable accès aux gens à des formes culturelles qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, c'est l'art de rue. Parce que l'art de rue, il est dans la rue. Et donc, on ne parle pas d'équipement culturel, on ne parle pas d'acheter un billet, on ne parle pas de passer la porte du grand opéra comédie où, si on ne t'a jamais parlé de ça, tu n'iras jamais ouvrir les portes de toi-même. Mais on parle de formes artistiques qui sont dans l'espace public et qui sont du cirque, de la danse, de la musique, du théâtre, des marionnettes et qui vont justement s'emparer... des balcons, des maisons, du mobilier urbain, mais aussi, si c'est plutôt dans la nature, aussi des arbres, pour créer quelque chose de poétique, donner à voir des choses, des formes artistiques qu'on n'a pas l'habitude forcément de voir. Et donc, je trouve que c'est très intéressant, notamment aussi le lien entre l'art de rue et l'éducation populaire, parce que c'est vraiment l'idée de on ne va pas démocratiser la culture et donner un billet pour aller dans un théâtre, mais c'est les éducateurs de l'éducation populaire, éducatrices de l'éducation populaire ou les artistes de rue qui vont vers le public et qui vont dans la rue leur montrer ce qu'ils ont à voir et en fait partager de la culture, quoi.
En plus, du coup, ça me fait penser un peu à... en plus, je te rejoins par rapport à ça, par rapport au street art. C'est un peu
un peu similaire. Et du coup, ça, enfin, le street art, ça a commencé depuis de longues années. Et du coup, ça fait un peu aussi des points de repère pour les habitants du quartier. Et ça s'identifie, ça un peu renforce des liens, ça fait un peu communautaire. Et toute personne qui savent dessiner ou pas, ils peuvent s'exprimer sur les murs. Et du coup, ça tisse des liens et de cohésion en fait entre personnes qui n'ont peut-être pas la possibilité d'aller dans des musées ou dans l'opéra ou dans d'autres choses comme ça. Mais si Daniel, tu voulais parler des MJC.
Oui, c'est un exemple aussi que j'ai vécu. Quand j'étais jeune fille, la culture et moi, on n'était pas passés par la même porte. Et je n'avais eu qu'une expérience d'aller écouter des opérettes quand j'avais 14 ans, parce qu'une grande au lycée m'avait donné ses places. Et j'avais été emballée parce que j'avais jamais vu des habits, des costumes, des décors magnifiques comme ça, des voix, alors j'en parle pas. Et pour une fois, j'arrivais à comprendre ce qui se racontait, c'était pas de l'opéra. Donc ça avait été ma première expérience. Et quand je suis arrivée au Havre, comme enseignante en 1975, j'avais 23 ans, là, j'ai été estomaquée par tout ce qui se passait au point de vue culturel dans cette ville. Il y avait en place des maisons pour tous qui s'appelaient là-bas CLEC, Centre de loisirs et d'échanges culturels, c'est-à-dire des lieux où il y avait un tas d'activités proposées, la plupart du temps gratuites. Hein. Voilà, c'était génial. Et c'est là que j'ai rencontré une amie que je connais depuis. Hein. On est toujours très liés, on faisait de la danse contemporaine. Et ensuite, au mois de juin, pendant 3 ans, durant la fin la fin d'existence du maire, je ne sais plus comment on dit, il y a eu des festivals joints dans la rue. Alors, le premier festival avait comme thème les différentes ethnies du Havre. Il y en avait 77. Et ça s'est terminé par un superbe concert de Johnny Clegg, le Zoulou Blanc. Voilà, l'année suivante, je me souviens plus tellement du thème, mais ça s'est terminé dans un bassin du Havre avec un concert de...
Tant pis, c'est pas grave.
Le grand copain de Johnny Hallyday.
Eddie Mitchell.
Eddie Mitchell. Et alors, en décor, on avait un bateau pompier du port et sur lequel il y avait tout un orchestre de cuivre réparti dans les haubans. C'était magnifique. Et puis après, ben, le maire ayant quitté son poste, sa mairie, bon, il y a eu toujours les CLEC en place, évidemment, mais les festivals se sont arrêtés là.
Oui, et puis du coup, ça me fait aussi rebondir sur que l'art, c'est aussi par rapport à la musique. Et en fait, les personnes qui ne parlent pas en fait la même langue, du coup, même si l'anglais, c'est aussi... l'anglais, c'est quand même la langue internationale. Des personnes ne savent pas parler anglais. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui utilisent la musique pour s'exprimer. Comme toute personne aujourd'hui connaissent le carnaval de Rio, il y a quand même 2 millions de touristes qui viennent chaque année au carnaval pour se rejoindre. Et tout le monde ne parle pas portugais, par exemple. mais du coup, ça fait un lien en fait, entre toute personne pour danser, pour partager en fait un événement sans s'exprimer verbalement et juste par rapport à la musique. Et on peut aussi parler de tout ce qui est dessin. Moi personnellement, j'ai beaucoup voyagé et en fait à chaque fois que je dessinais, il y avait tout le temps des enfants ou des adultes qui venaient me voir, même s'ils parlaient pas, qu'on parlait pas la même langue, juste pour voir ce que je dessinais. Et du coup ça permet de communiquer en fait entre frontières. Donc pour moi c'est vraiment tout un art de communiquer entre frontières, même si on ne parle pas la même langue. Pardon, dis-moi Anita.
Eh ben, je pense que ce que tu viens de dire, ça peut être une très bonne transition vers la pause musicale, parce que aujourd'hui nous vous proposons un titre de Bad Bunny qui, excusez-moi mon accent, Nueva Yol, qui justement fait un peu écho à ce que tu racontes, parce que c'est une manière. Donc, pour revenir sur les faits, Bad Bunny, c'est un artiste portoricain qui est très connu à l'international et qui aujourd'hui a été visé par l'administration Trump, qui a dénigré ses formes musicales, ses performances artistiques, parce que notamment. Bah, ça rentre dans une politique anti-immigration de Trump très forte, mais aussi parce que il considère que sa performance n'est pas du bon goût musical et que il devrait pas pouvoir se représenter au Super Bowl ou sur des grands événements aux États-Unis. Et Bad Bunny a répondu à ça par justement une performance incroyable en mettant en avant aussi son engagement contre la politique migratoire anti-immigration pour le coup de Trump. Et donc c'est aussi des formes d'engagement qui passent par la culture et qui vont au-delà de notre pays ou notre langue.
¿Quieres divertir? A correr contra velo, sacamos los estadios.
Tiene piquete, mami, yo también. Tú estás buena, yo estoy bueno también. Huelo rico y ando con los de 100. Si tú lo quieres, lo tienes que mover. Tú tienes piquete, mami, yo también. Tú estás buena, yo estoy bueno también. Huelo rico y ando con los de 100. Si tú lo quieres, lo tienes que mover. Lo tienes que mover. Ba, 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 ba. Lo tienes que mover. Ba, 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 ba. Lo tienes que mover. Ba, 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 ba. Lo tienes que mover. Ba, 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 ba.
Et nous revenons pour parler maintenant plus de notre quartier Gambetta, toujours sur le sujet de l'art et la culture. Et je sais que Anita, tu avais quelque chose à dire sur ce sujet.
Oui, merci Tiffaine. Alors, moi, j'avais prévu de vous parler un peu de, des actions culturelles qui se passent dans le quartier, parler de ce qui se fait pour les enfants, pour les familles, ce qu'on fait au Récif. Mais en fait, l'actualité brûlante nous a amené à repenser un petit peu notre partie sur le quartier. Et ça nous tenait beaucoup à cœur de pouvoir parler... du centre communautaire Humaine Santé. Et donc, je vais donner tout de suite la parole à Astrid, qui va nous parler un peu plus de ce sujet-là.
Bonjour. Alors oui, je vais là actuellement, je viens parce qu'on est un peu en état d'urgence au niveau des centres de santé communautaires, qui sont aussi des associations. Et comme la culture, quand on donne accès aux soins pour tout le monde et on donne les moyens d'y aller, bah, bizarrement, les gens, bah, ils se soignent et puis même ils évitent d'être malades. Et c'est exactement ce que fait nous, on en a un à Montpellier, qui s'appelle donc Humaine Santé, situé 7 rue Raoult. Et c'est un centre de santé donc communautaire qui, depuis 3 ans, comme 26 autres maisons et centres de santé en France, fait partie de ce qu'on appelle des structures d'exercice coordonnées participatives. Et c'est un dispositif d'expérimentation. Je reviendrai sur ce genre de dispositif, mais il y en a plein qui ont été mis en place dans le social, dans le médico-social et dans le médical, notamment ces dernières années, notamment ce deuxième quinquennat du Macron. Et ces dispositifs d'expérimentation, bah en fait, c'est très beau sur le papier. Ça donne la possibilité à plusieurs initiatives en fait de ce genre, donc participatives pour le logement, pour la santé, etc., de se mettre en œuvre et de montrer un peu ce qui est possible. Donc, dans le cas des centres de santé communautaires, il s'agit donc bien de maisons et de centres de santé. Donc, il y en a 26 en tout, dans toute la France. On en a un à Montpellier, 2 en Occitanie. Donc, il y en a un autre à Toulouse. Et sur l'ensemble de ces 26, là, aujourd'hui, en 2025, donc l'expérimentation arrive à échéance, le 30 avril. Ce qui a été annoncé assez violemment en visio, le 29 janvier, à l'ensemble des structures qui se sont connectées, qui ont eu l'annonce, et après, ça a coupé. Ça va sans dire que tous les centres étaient sous le choc, que en fait, ce qu'ils avaient revendiqué, c'était en prouvant l'efficacité de cette expérimentation, hein, parce qu'en fait, ce qui a été prouvé, c'est que les 26 maisons et centres de santé partout en France ont tous prouvé que c'était efficace, ont tous eu une évolution positive et ont tous pu développer leur activité considérablement dans les 3 années. Moi, en tant que patiente et adhérente du Humaine Santé moi-même, je peux effectivement constater, ne serait-ce que par mes yeux et par la façon dont je côtoie, donc je ne vais pas tout le temps chez le médecin, mais justement, je vais vous en parler, qu'effectivement, notre centre local, a évolué extrêmement positivement avec une augmentation de personnes intervenant, salariés, bénévoles et participants à l'activité du centre. Pour dire un peu, c'est une prise en soin globale. Où on a à la fois le médecin généraliste, les médecins généralistes, l'assistant sociaux, les psychologues, un accès à une pratique de physique adaptée, activité physique adaptée par exemple, et un certain nombre d'ateliers de prévention et de sensibilisation qui sont faits régulièrement toute la semaine autour de différents sujets. La lutte de prévention contre la désaddiction, les violences conjugales, la santé des enfants, le soin des enfants. Et ça rejoint énormément la culture parce que c'est justement mis en place d'une culture commune autour des droits fondamentaux, en fait. Et donc le but, là, c'est de vous prévenir, de vous alerter sur une mobilisation en cours. Parce qu'évidemment qu'on ne va pas accepter comme ça que le 30 avril, tout ça s'arrête. Ce serait une perte énorme, nous, localement, pour notre quartier, pour notre ville. Pour le coup, le conseil municipal actuel est quand même favorable effectivement à que ces centres continuent à exister, le nôtre. Le CHU est aussi avec nous, pour des raisons évidentes. Donc, c'est coupé, cette coupe budgétaire, donc c'est encore une fois, on est dans cette lignée de « on a coché la case, ça y est, on a fait un truc pour la santé, on a fait un truc pour la pauvreté, on a fait un truc pour le mal logement, on a fait un truc pour la culture », parce que, en parlant de culture, dans les dernières deux années, le budget de la culture en Occitanie a été quand même coupé par 100%. Et en ce qui concerne le pass culture, il a été divisé en deux pour tous les élèves du second degré. Et dans l'éducation nationale au second degré, on a de plus en plus de mal à faire des projets qui anciennement étaient évidents pour le pass culture. Le budget a drastiquement été réduit, voire est presque néant en fait aujourd'hui. Donc là, j'ai mis ma petite casquette prof entre temps. Bref, donc ce que je voudrais vous dire, c'est que du coup, ne serait-ce que notre petit centre de santé. Il y a 1300 aujourd'hui de patients usagers, bénéficiaires accueillis dans la file active. À cela se rajoutent en fait des 200-300 personnes qui ont l'AME. Donc on a aussi, c'est interculturel. Il y a plusieurs langues pratiquées, il y a plusieurs possibilités de prise en soin. Aucune avance est à faire. Donc ça aussi, c'est pas. On n'a pas avancé quand on y va, donc c'est ouvert vraiment à tous. Et tous les usagers deviennent au fur et à mesure aussi adhérents et bénévoles et participent donc horizontalement au fonctionnement de cette association. Donc là, justement, ça rejoint complètement l'éducation populaire et tout ce qu'on attend, parce que ça va dans toutes les sphères de la vie humaine, de notre existence quotidienne. Et si on prend soin de nous, et si on prend soin les uns des autres, et si on respecte le droit fondamental d'accès aux soins, bah, on peut justement aussi, ça va à deux pair avec l'accès droit fondamental aux loisirs. À ce sujet, je vous recommande deux petites lectures, l'éloge de l'oisiveté et Paresse pour tous. Vous chercherez. Aujourd'hui, ce qu'il nous faut, donc là, ce soir, 18 février, ce soir, vous êtes tous invités, nombreuses et nombreux, à venir. Donc, on a réservé la salle à la brasserie Le Dôme, qui est pas loin, où tout le monde connaît dans le quartier. Ça nous paraît logique parce que c'est historique comme lieu qui accueille vraiment toujours les luttes en cours. Donc ça, c'est notre premier rendez-vous où on va faire une conférence de presse avec le communiqué. Il y a un communiqué déjà national. Il y a plein de choses qui ont été faites depuis le 29 janvier. Et je vous invite tous aussi à visiter votre centre local de santé communautaire. Et si vous n'y êtes pas encore, d'en faire votre centre de santé et de médecins traitants. Et au moins d'y adhérer. Mais en tout cas, vous pouvez y aller tous les jeudis. Au 7 rue Raoult, je le répète, entre 13 et 15 heures. Et du coup, et accueil de tout le monde qui veulent participer, se mobiliser avec nous et militer pour que ça ne s'arrête pas. Et voilà. Et à ce sujet, vous pouvez aussi aller sur humansanté.org, très simple à trouver, signer la pétition en ligne, qui est une pétition donc nationale pour l'ensemble des centres de santé. Je ne sais pas s'il me reste encore un peu de temps et j'ai l'impression d'aller très vite. Ok. Les enjeux, en fait, vraiment, à la fois, comme pour la culture, hein, c'est quand on coupe l'accès à des soins. Là, il y a 1300 personnes potentiellement, et j'en fais partie, qui vont arrêter de prendre soin de soi. Et l'ensemble de ma famille, par exemple, et l'ensemble, ça a été vraiment ce qui a été bien dit et bien entendu lorsqu'on a commencé à se mobiliser jeudi dernier. On était plus que 60 présents à ce premier rendez-vous qui s'est déroulé dans toute la France, dans tous les maisons et centres de santé ce jour-là. Et l'ensemble des démos, c'était « mais on va arrêter de prendre soin de nous, en fait ». On n'a plus notre centre à côté, on n'a plus cette facilité d'y aller, de se faire accueillir, de soit dans un canapé, boire un café, parce que ça va de la personne âgée qui vient de recevoir sa notification pour telle aide ou tel truc, qui vient juste, en fait, j'arrive pas à le lire, aidez-moi avec ça, à j'ai la grippe ou je ne sais pas ce que j'ai, ou j'ai besoin d'aide. Donc en fait, c'est vraiment un lieu d'accueil et un peu comme le local du Récif. C'est vraiment... Et d'ailleurs, le Récif est aussi partie prenante de ce qui se passe à Human Santé avec les ateliers de facilitation graphique qui ont permis de participer aux ateliers de prévention divers et variés. Et je pense que le Récif serait très triste de ne plus pouvoir participer à ça. Moi, je serais en tant que récifienne aussi très triste. Donc là, pour le coup, double peine, en fait. Voilà. Alors, les enjeux aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est évidemment, d'une part, de ne pas devoir plus avoir cette importante partie de notre budget. Il représente 51% du budget quand même, de global, total. Parce que ça voudrait dire qu'il faut qu'on aille voir uniquement les ARS et des fondations privées. Et ça, c'est très dur parce qu'ils n'ont plus de sous non plus. Et l'AERS sont soumis à une concurrence interne. Dans la région, c'est des appels à projets, donc on n'est jamais sûr d'avoir vraiment le montant qu'il faut. Là, on a quand même des gens à soigner. C'est pas... Et en plus, ça fait aussi une concurrence entre régions. Donc, entre dépendant dans quelle région et dépendant de l'enveloppe, ça ne donnera pas la même chose. Donc là, pour le coup, on va à l'encontre totale de l'accès au droit fondamental, qui est sans discrimination et sans condition, aux soins. Et je rajouterai à la culture. Et à l'éducation. Donc aujourd'hui, ce qu'on aimerait, c'est qu'au lieu de couper, c'est de faire, et ça a été toujours demandé, et d'ailleurs le Premier ministre, le 3 février, dans l'Assemblée, a quand même à l'oral dit « Mais si, bien sûr, ça va être pérennisé », en répondant à député Châtelaine, mais après, à l'écrit, rien du tout. Donc, on veut que ça rentre dans le droit commun. Si ça rentre dans le droit commun, ça veut dire que ça se maintient, ça se pérennise, et ça permet donc de maintenir le cahier de charges actuellement en cours, qui a montré son efficacité, qui montre qu'il y a un besoin à laquelle on répond et qui est croissant, parce qu'on sait très bien que la pauvreté ne baisse pas, qu'on ait donc un financement pérenne. Pour l'ensemble des structures actuellement en SECPA, donc structure d'expérimentation coordonnée participative, et que les négociations qui ont déjà commencé à avoir lieu avec la direction générale de l'offre de soins reprennent et qu'on puisse justement revendiquer notre pertinence et surtout la dignité de tous ceux qui sont usagers, bénéficiaires, accueillis et qui vont vraiment, pour le coup, c'est dramatique. Je vous alerte vraiment. Donc venez ce soir à 17h au Dôme. On vous attend nombreux et nombreuses et diffusez l'information à tout le monde. Merci.
Merci beaucoup Astrid pour toutes ces informations. Du coup, on vous attend ce soir à 17h au Dôme. Pour passer aux actualités du coup du pavé, on va commencer par Eliane si tu veux nous parler de vos actualités.
Les actualités du pavé, eh ben, c'est déjà tous les mardis et vendredis le jardin partagé à partir de 15h.
S'il pleut pas.
S'il ne pleut pas ou s'il n'y a pas de vent. Et puis, on a des amis du pavé qui organisent à partir du 22 février les illuminaires. Alors, c'est pas à Montpellier, mais c'est chouette. N'hésitez pas à y aller. C'est dans la mouvance de ce qui se passe tous les ans en septembre à Maguelone avec un collectif d'artistes qui font des choses très sympas et dans lequel participent Caroline et Jean-Michel du pavé.
Dans la suite des actualités, comme d'habitude, le troisième vendredi du mois, vous retrouverez au Récif la soirée des Vendredis du Récif. Le 20 février, ce sera sur la thématique karaoké avec autre animation musicale. Et le 20 mars, ce sera un petit ciné-débat. Voilà. Et ce qu'on peut vous dire d'autre, c'est que nos amis de Figuerolles à Desmas organisent le 14 février la fête de tous les amours. C'est une fête de Saint-Valentin alternative où on va parler d'amour autrement. Et le 4 mars, le carnaval.
Sur le thème disco.
Yeah.
Bah merci en tout cas pour toutes et tous. Merci de nous avoir écoutés. Et on se retrouve en mars.
Merci Tiffaine.
Oui, merci Tiffaine pour l'animation de cette émission.
Tous les troisièmes mercredis du mois sur les ondes de Radio FM+, retrouvez Sous le pavé, le récif, une émission interassociative co-construite avec les membres du récif et du pavé.
Si j'étais un oiseau.